Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Débrief de choix ce soir, chers amis, avec Claudia Cohen qui est avec nous. Salut. Bonsoir. Claudia, journaliste au Figaro. À tes côtés, c'est Jérôme Colomba. Salut Jérôme.
Bonsoir, bonsoir.
Tout bronzé. Ça va, ça s'est bien passé les vacances?
Écoute, ça va, c'est terminé. Bah, voilà, pour certains, ça commence.
Ah bah, si t'es là, c'est que c'est terminé, mon grand. Journaliste, créateur de podcast, du podcast Monde Numérique, et de temps en temps en vacances, ça peut arriver. Hein.
Oui, pas souvent.
Pas souvent. Frédéric Simotel est là. Salut Fred.
Bonsoir, salut à tous.
Voilà, journaliste à BFM Business et en visio, il est avec nous. C'est Bruno Guguier-Minetti. Salut Bruno.
Bonjour de Montréal.
Comment vas-tu, Bruno?
Ah ben ça va très bien, moins bronzé que Jérôme, mais bon.
Bah écoute, oui.
Ça va aller.
Bah on peut bronzer au Québec sur un malentendu, non? Enfin non,
non, mais quand même, plus que sur un malentendu. Aujourd'hui, il fait très beau. Vous savez que quand il est 20h à Paris, il est toujours 14h au Québec.
Ah voilà, c'est ça.
Et c'est plein soleil aujourd'hui.
Parfait. Bruno Guguier-Minetti, qui est journaliste, animateur de son carnet de l'actualité numérique que vous pouvez télécharger. Deux podcasts à télécharger. Enfin, trois, j'ai envie de dire. Tech & Co, voire quatre. Tech & Co Business. Oui, il ne faut pas que je te froisse non plus. Tech & Co, le monde numérique de Jérôme et le carnet de l'actualité numérique de Bruno Guglielminetti. Alors, l'actualité, on va passer une petite demi-heure sans doute sur Apple, avec à la fois les annonces de ces nouveaux iPads. On va retrouver Mélinda dans une seconde. Apple qui développera aussi des puces pour exécuter des logiciels d'intelligence artificielle dans les data centers. Intéressant aussi ce sujet. Puis, tout à l'heure, Jérôme nous racontera ses essais des deux produits high-tech un peu tendance en ce moment, les iPin que tu as testé longuement. Tu m'as même fait une visio pour montrer les boîtes et tout, en me disant, tu te rends compte, je suis en train de tester les iPin, tu nous diras ce que t'en penses.
Oui, au début ça me plaisait, sur la fin c'était un peu plus dur.
Et tu as testé le Rabbit aussi.
Oui, ouais.
Il y a peu de gens qui ont testé ce truc là hein.
Oh, ça commence à... Bah oui, parce que c'est disponible, les deux produits ne sont disponibles qu'aux États-Unis.
Donc, voilà. Donc ce sera tout ça dans quelques instants et puis beaucoup d'autres sujet, mais dans l'immédiat, nous retrouvons en visio Mélinda d'Avansoula. Salut Mélinda.
Salut François, bonsoir tout le monde.
Voilà, journaliste à la rédaction de Tech & Co, Mélinda d'Avansoulas, qui a vécu la keynote d'Apple concernant les iPads. Alors tu es à Londres, parce que c'est vrai qu'en général tout se passe de l'autre côté de l'Atlantique, mais là je pense que Apple a dû faire un petit event européen. Que penses-tu de ces annonces? Je crois qu'il y a eu deux iPads hein, présentés, la nouvelle version du R et la nouvelle version du Pro, c'est ça hein?
Oui, alors, je ne sais pas par lequel tu préfères qu'on commence.
C'est au choix, tu fais comme tu veux.
Alors, l'iPad Air, on s'attendait à ce qu'il soit un peu mis à jour parce qu'il était toujours sur la puce M1. Alors, c'est la puce maison qui est très puissante. Mais aujourd'hui, vous voyez, on a passé M2, M3. On va parler tout à l'heure de la M4. Donc, il était temps qu'il aille un peu plus loin. Donc, ce sera la puce M2, on pourrait dire presque seulement. Mais l'intérêt de l'iPad Air, c'est surtout que désormais, il a le droit à un grand écran. Et un grand écran comme l'iPad Pro. Donc, on aura du 11 pouces ou du 13 pouces. Alors, c'est pas anodin comme annonce parce qu'on sait très bien que aujourd'hui, si vous vouliez un iPad très, très grand, vous étiez obligé de prendre l'iPad Pro, qui a quand même un prix conséquent.
Ah oui.
et des fonctions qui n'étaient pas forcément utiles pour tout le monde. Donc là, d'avoir la possibilité d'avoir un iPad Air qui est quand même un excellent modèle, avec une dalle beaucoup plus grande, ça va ouvrir, à mon avis, les ventes à beaucoup plus d'utilisateurs. Donc ça, c'est pour l'iPad Air, c'était la bonne nouvelle, avec aussi un prix d'entrée de l'iPad Air qui baisse un peu, faut quand même le noter, c'est suffisamment rare pour être signalé, il perd 70€ quand même en France. Mais bon, évidemment, l'intérêt, c'était l'iPad Pro, c'est ce qu'on attendait. L'iPad Pro qui arrive vraiment, relooké. Un nouveau design, il est beaucoup plus fin. Alors, on nous a dit, il faudrait quand même qu'on compare, mais je pense que c'est vrai. C'est le produit Apple le plus fin jamais conçu.
Oui.
Pour vous donner une idée,
plus
c'est 5,3 mm.
D'après ce que j'ai compris.
Oui. Plus qu'on oublie ça, mais l'iPod Nano qui avait l'air tout petit, ben voilà, il a encore plus fin. Alors, ce qui est très drôle, c'est que l'iPad Pro 13 pouces, qui s'appelle plus 12,9, qui s'appelle 13 désormais lui aussi, il fait 5,1 mm. Il est plus fin que son petit frère de 11 pouces parce qu'il y avait évidemment plus de place pour la batterie qui a pu être beaucoup plus fine. Donc, moi, je l'ai pris en main. Il est vraiment très, très, très fin. C'est assez impressionnant. Ça lui donne presque plus de volume. Il a l'air encore plus grand qu'avant alors que c'est quasi le même. Mais surtout, il a un écran OLED qui est magnifique. Et à l'intérieur, ce qu'on attendait, la fameuse puce M4 qui a été annoncée pour l'occasion.
Donc le top du top,
c'est la nouvelle
puce
la plus puissante.
Voilà, puce
c'est la plus puissante aujourd'hui du marché. Elle n'est pas dans un MacBook. Elle n'est pas dans un MacBook, ni Air, ni Pro. Elle est donc dans un iPad. L'iPad Pro, c'est le modèle le plus puissant aujourd'hui de la gamme d'Apple. C'est ça qui est assez drôle.
Ouais, c'est un puissant. Donc, en théorie, il est même plus puissant qu'un MacBook Pro ? Ou est-ce que c'est plus complexe que ça ?
Alors ça, je pense que tous ceux qui vont l'avoir en main prochainement et qui vont pouvoir faire des benchmarks vont s'amuser à comparer la gamme M3 la plus puissante, donc qui doit être le M3 Max, parce que je crois qu'il n'y avait pas eu de M3 Ultra, et le M4. Normalement, ça devrait être un peu plus puissant, puisqu'on est passé à la génération suivante, même si la puce M4 toute seule sera l'entrée de gamme de ces nouvelles puces. C'est un iPad, n'oublions pas que c'est un iPad, c'est une tablette tactile qui se retrouve ultra puissante. Ouais. Donc ça, c'est quand même une info, c'est pas anodin. On sait que le marché des tablettes devient extrêmement concurrentiel. Alors l'iPad est toujours leader loin devant, mais il y avait quand même besoin, je pense, de remettre un petit coup pour rappeler que les ténors de la tablette tactile, c'est Apple, et que là, l'iPad Pro, avec une puce M4, franchement, vous allez pouvoir faire à peu près tout. Je pense. Je ne sais pas ce qu'il ne sait pas faire.
Et même c'est Tim Cook qui a ouvert cette keynote. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, enfin, je l'ai parcouru. Qui disait oui, c'est la plus grosse annonce iPad jamais vue par Apple. Enfin, etc., etc. Mmh. Tout ça dans un contexte un peu compliqué pour les iPads, parce qu'on en parlait hier, Fred, et je vous avais sans doute vu les chiffres, les résultats financiers d'Apple. Hein.
Oui.
L'iPad se casse la figure, tout comme l'iPhone d'ailleurs. Donc, il était tant aussi, je pense, important pour Apple de renouveler un petit peu, d'épater le chaland, de sortir de nouveaux produits pour rebooster les ventes, non, Melinda?
Oui, je pense que c'est le message. On s'est tous dit quand il y a eu l'annonce de cette keynote, c'est une keynote au mois de mai, à un mois de la conférence des développeurs, on a très vite parlé de cette puce M4 qui allait être annoncée là, alors que normalement on le sait, les nouveaux processeurs sont annoncés lors de la conférence des développeurs, puisque ce sont les développeurs derrière qui vont mettre presque le plus à profit les puces. Là, tout était un peu bizarre. Et puis, en fait, quand on voit l'événement aujourd'hui, on voit le message qui a été passé avant la conférence, parce que nous, on avait Greg Joviak qui était là pour annoncer et qui, pareil, nous a promis que ça allait être un grand jour pour l'iPad. Tim Cook, dans la vidéo, qui a promis que c'était le plus grand jour de l'iPad. Oui, il y a besoin de redonner un peu de peps aux iPads. C'est pas pour rien qu'il y a un iPad Air XL qui arrive. C'est pas pour rien que l'iPad, on oublie, mais l'iPad 10e génération, le modèle d'entrée de gamme, baisse. C'était aujourd'hui le jour de l'iPad. Il fallait redonner un coup de boost à tout ça, relancer le marché, rappeler qu'on est là. Il n'y a pas plus puissant aujourd'hui que la puce M4 sur le marché. C'est quasiment sûr, la puce M3 c'était déjà ça. Mmh. Les autres tablettes qui vont arriver même sous Snapdragon, elles ont un peu de soucis à se faire pour les gens qui vont rechercher de la puissance pour tout faire.
Voilà, tu parlais de Greg Joviak qui est le ponte marketing d'Apple au niveau monde. Donc, Apple qui est tout excité, évidemment, comme à chaque keynote, bien évidemment, ils sont très heureux. Qu'est-ce que ça va être quand ils vont annoncer l'IA, les amis ? Alors là, Tim Cook va faire des saltos arrière, c'est pas possible. Déjà, pour deux petits iPads, c'est la fiesta. Alors imaginez quand on va avoir un Siri qui va comprendre ce qu'on va lui dire. Ça va être génial.
Moi, j'ai une question pour Melinda. Melinda, est-ce qu'ils ont montré leur tableau traditionnel de puissance, consommation d'énergie, tout ça, en montrant que la M4 consommait deux fois moins et en étant deux fois plus puissante ?
Non, enfin, on n'a pas eu vraiment de tableau. On a eu des informations pour évidemment expliquer que c'était beaucoup plus puissant que la M3. Et souvenez-vous, l'ancien iPad Pro était sous M2. Donc on nous a dit que oui, ça allait être 50% plus puissant et tout. Mais finalement, sur cette puce M4, on n'en a pas appris tant que ça. Par exemple, on attendait beaucoup d'informations autour de l'intelligence artificielle. Il n'y a rien eu. Parce que le seul message qu'on a eu, c'est Apple qui nous a rappelé. iPhones, dans les puces A, la fameuse partie Neural Engine dont on nous parle souvent. C'est la partie intelligence artificielle en fait d'Apple. Oui. C'est présent dans les iPhones depuis très longtemps. C'est ce qui permet, quand vous ouvrez votre téléphone, qu'il sache exactement ce que vous allez vouloir. En fait, d'être capable d'être proactif sur ce que vous voulez faire. Il n'y a pas d'IA générative.
Pas d'IA générative, mais ils ont quand même rajouté des cœurs GPU à l'intérieur du M4.
Mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, on a compris qu'elle allait être capable de tout, cette puce, qu'il y a un potentiel dingue dedans. Mais on va le savoir au mois de juin, parce qu'il fallait quand même garder des annonces pour le mois de juin.
Oui.
Parce qu'il y a des produits qui vont arriver avec cette puce M4, il y aura des MacBooks, c'est une évidence. Et puis, les développeurs, on leur dit quoi si on leur dit tout, si on dit tout à une conférence iPad ? C'est ça qui était rigolo dans le message aujourd'hui, c'est qu'il fallait en dire beaucoup, mais sans en dire trop. Et je vous rappelle, en français, le mot d'ordre de la keynote, c'était « imaginer ». Alors, c'était pour dessiner avec l'Apple Pencil nouveau qui vient d'arriver, mais c'était aussi pour imaginer tout ce que vous allez faire après avec la puce M4.
Alors, Mélinda, parle-nous de ce nouveau stylo. J'ai l'impression que c'est le stylo de James Bond. Il y a une petite vidéo pendant la keynote, vous l'avez vu, où on a une vision à l'intérieur du stylo. On a l'impression d'être dans un... Vous savez, les trains hyper rapides, là, voilà, l'hyperloop, avec plein de capteurs, plein de systèmes tactiles, etc. Ce stylet, bon, qui coûte $120, je crois, hein. Donc, bon, voilà, c'est pas donné.
Il est au même prix, hein. Il est au même prix que l'ancien, quasiment. Alors, moi, j'ai un peu joué avec. C'est rigolo parce que c'est vraiment tout ce qu'on a envie d'attendre d'un stylet. C'est dans les premiers usages qu'on a eu. Alors il y a en effet dedans, il y a un gyroscope, il y a un moteur haptique qui fait que vous allez avoir des vibrations quand vous en servez. On peut presser dessus pour avoir d'autres options. Alors si vous dessinez par exemple, ça va ouvrir l'espèce de boîte à outils qui vous permet de choisir entre le stylo, le feutre et tout ça. Mais ça a aussi des avantages dans d'autres logiciels type Adobe pour dessiner, mais aussi pour, si vous faites de la création, pour bouger des éléments. Vous allez pouvoir donner un mouvement aux éléments. Parce que on peut, comment dire, alors je vais pas dire rotationner, c'est pas très beau, mais bouger légèrement l'Apple Pencil entre les doigts et ça va changer ou le trait du dessin ou tourner les éléments que vous êtes en train de bouger. D'accord. Il est beaucoup plus intuitif, il est beaucoup plus puissant. Alors il ne marchera qu'avec l'iPad Pro et l'iPad Air des nouvelles générations qui ont été présentées. Mais franchement, il y a un potentiel, je pense, pour les plus créatifs, ce qui n'est pas mon cas, assez dingue avec.
Oui, parce qu'évidemment, ce stylet ne marche qu'avec les nouveaux iPads. Bien sûr, si vous avez l'ancien modèle, bah écoutez, il pourra vous servir à vous gratter.
Vous resterez avec les anciens.
Voilà, c'est ça. On peut pas téléphoner avec le petit stylet, hein, quand même. Ils sont pas allés jusque-là.
Non, toujours pas.
Non. Mais en revanche, il y a un truc qui est rigolo, c'est qu'ils ont mis en fait la fonction localisée. Et ça, je trouve que c'est plutôt malin. Tout comme les AirTags ou les AirPods, si vous perdez votre stylet, vous allez pouvoir le localiser maintenant de manière précise avec votre iPhone.
Donc, on peut localiser le dernier endroit où il était associé à l'iPad, c'est ça, non?
Et je crois que c'est comme un peu tu sais, les AirPods, il y a comme un petit composant qui va capter
la boîte des AirPods.
Oui, la boîte des AirPods, bien sûr. Je crois, hein, Mélinda, tu peux nous confirmer ça ou pas?
Que l'Apple Pencil Pro, oui, il a la fonction localisée. Enfin, ce qui est Find My, donc on pourra éviter de le perdre. C'est pas mal parce que le gros problème des stylets, alors ça, c'est pas seulement chez Apple, c'est valable chez tout le monde, c'est qu'en général, on ne sait pas où le mettre. Perd extrêmement facilement. C'est... Là, il pourra être, en effet, il a la fonction localisée. Donc ça, moi, je trouve que c'est la petite fonction, c'est la petite ligne dans les informations qui m'a bien plu.
Je me souviens, c'est un débat
qu'on a j'en ai, je ne sais jamais où je les ai posés.
Ça fait des années avec Jérôme qu'on a ce débat et t'étais très énervé parce que tu savais pas où
très énervé, c'est bourré de technologie et ce truc-là, on ne sait jamais où le mettre.
Mais oui. Mais là, il est collé, non? Il peut se coller, je crois, sur le.
Oui, tu sais, il s'aimante pour se recharger.
Il est aimanté.
Ouais.
C'était déjà le cas. Et si tu te contentes de ça, tu ranges ça dans ton sac, t'es sûr de ne pas retrouver le stylet.
Oui, parce que.
Au mieux, il est au fond de ton sac, au pire, il est tombé dans le comptoir.
Comme ton charcutier, tu mets derrière l'oreille.
Oui, c'est une option.
Voilà, c'est le côté pratique breton de Fatima, tout de suite qui ressort. Merci beaucoup, Mélinda, pour toutes ces précisions.
Merci à vous.
Voilà, depuis Londres, où une poignée de journalistes étaient présents pour vivre cette keynote qui était bien sûr préenregistrée. Hein,
elle était triste, souvent. Cette keynote.
Bah, elle était, on va dire, très, très efficace, mais voilà, il n'y avait pas. Ces trucs-là enregistrés, il n'y a plus d'âme, quoi. Voilà,
tout d'une
est
part,
au cordeau, c'est au cordeau.
Exactement, c'est au millimètre, la musique était assez ringarde. Et en plus, je trouve, moi, j'étais là à la place de ces pauvres gens qui étaient pour la 400 millième fois en train de dire amazing, fabulous, 4 fois plus puissant, 10 fois plus machin, etc. Avec toujours une espèce de faux enthousiasme. Je trouve qu'on a un peu atteint la limite de l'exercice, quoi, en termes de présentation.
Claudia.
Oui, mais ça marche à chaque fois, hein, parce que quand tu regardais dans la presse américaine, ça faisait des jours et des jours qu'on écrivait sur les potentielles annonces. Ouais. Là, tout le monde
les a repris. Il y a toujours cette attractivité.
Même les médias très grand public.
Oui, mais je ne remets pas en question les produits et la valeur qu'ils peuvent avoir, etc. Et l'intérêt du
journalistique. Mais c'est plus sa forme.
C'est la forme de la keynote qui est tellement surfaite, tellement américaine aussi. Ça manque énormément de recul. Enfin,
qu'on l'a trop vu, ou alors faut imaginer d'autres formats.
Pour l'anecdote, pour les fans de Pink Floyd, le campus d'Apple à Londres, c'est la pochette de l'album Animals, où on voit cette usine avec ses quatre grandes cheminées. Bah, c'est leur campus là qu'ils ont totalement retapé, qu'ils ont couvert avec une verrière et tout ça.
Bruno, alors ces iPads, tu vas t'en acheter combien?
Ah, ben, probablement une caisse, aussitôt
oui,
que c'est disponible.
Oui, bien sûr, évidemment.
Mais non, moi, ce que je trouvais intéressant, moi, je suis moins rabat-joie que vous concernant cette annonce-là. Écoutez, c'est un pitch de vente. Alors, c'est sûr que ça doit être fait au quart de seconde. C'est pas un événement en direct. Donc, évidemment, il faut que ça soit serré. Mais où j'ai trouvé ça un peu prétentieux de la part de Tim Cook, et d'ailleurs, tu faisais référence, François, c'est à l'ouverture, quand il dit que c'est... Pas probablement. C'est l'annonce la plus importante depuis le lancement de l'iPad en 2010. Je m'excuse, mais l'annonce la plus importante, c'est quand l'iPad
c'était
a été
l'iPad
plus grand.
Et c'était Steve Jobs. Voilà.
Oui, ben oui. Mais ça a été quand l'appareil est devenu plus grand ou plus petit. Oui. Mais au niveau de la puissance, chaque année, chaque présentation arrive avec son lot d'augmentation de puissance. Alors, puis dans le fond, c'est ce que c'est, hein. Avec un M4 dans le cœur de l'appareil, ben c'est sûr que ça va faire des pirouettes plus que le modèle précédent. Mais c'est tout. Sinon, il y a pas énormément. Puis j'avoue que j'ai eu un petit sourire à un moment donné dans la présentation lorsqu'on est rendu dans une bibliothèque. C'est la seule mention que j'ai vue où on parle vraiment d'intelligence artificielle. Ah, je dis, oh ben quand même, ils commencent à mentionner que l'intelligence artificielle est dans leur appareil. Alors ça, c'est bon signe. Ça nous prépare.
Des arrière-plans, ce qui montrait un peu, c'est que ça va être beaucoup plus facile d'enlever les arrière-plans, mais comme c'est le cas en fait déjà oui. depuis assez longtemps
sur d'autres appareils,
mais c'est vrai que tu l'évoquais tout à l'heure, c'est une très très grosse année 2024 quand même pour Apple. Tu le disais, il y a une baisse des ventes au niveau des smartphones, au niveau des iPads, tout ce qui est hardware, c'est compliqué. Et en fait, on le voyait quand même ces dernières années que Apple commençait un peu à se transformer en plutôt un modèle commercial de service. Aujourd'hui, tous les services d'Apple, c'est plus d'un quart des revenus. Le cloud, Apple Music, le stockage, etc. Sauf que ces services, aujourd'hui, sont en danger avec les différentes autorités de la concurrence.
Le DMA, les réglementations.
C'est ça. Donc, on peut un peu moins s'appuyer qu'avant sur la jambe service. Et donc, il y a des vraies attentes aussi de la part des consommateurs. Et c'est vrai, comme soulignait Bruno, finalement, tout est assez prévisible. C'est-à-dire que là, ce qu'on nous a présenté, il y a des avancées. Effectivement, ça donne envie pour des professionnels du dessin, etc. et autres, mais pas du tout de révolution.
En fait, Apple rappelle aussi qu'il est un constructeur. Et là où tout le monde, on parle beaucoup d'IA en ce moment, alors ils sont tous éditeurs, Microsoft, Google, bon, une petite fonction constructeur, mais Apple là rappelle, et je trouve qu'il distille un peu, il pose un peu quelques pierres blanches pour préparer la suite en disant, bon, je vous rappelle, je suis un constructeur, donc voilà mes iPads, voilà mon CV, voilà ma puce aussi. Ouais. Je rappelle aussi que tous ceux qui ont sorti leur Dell, leur Lenovo, PC AI, notamment au World Congress, on en a vu beaucoup. Eh bien, moi, je suis dans cette course-là. Donc, je trouve qu'il y a un message qui est passé pour moi au niveau de la partie matérielle, quoi, de ce rappel d'Apple qui joue dans cette course aussi importante.
Après, la question, évidemment, ce sont des produits superbes. On est un peu taquin avec Apple, mais effectivement, on aime beaucoup cette marque. Et si vous nous suivez régulièrement, voilà.
Et la facilité d'utilisation d'un iPad,
voilà,
quand même.
L'iPad est incroyable. L'iPad OS est superbe, même si on peut regretter qu'il soit pas, enfin, qu'il nous permette pas d'avoir autant de productivité qu'avec un Mac, par exemple. Hein, c'est toujours le même.
Loin de là. C'est un vrai problème.
D'accord. Mais on se dit, tiens, peut-être que ça nous donne envie de s'offrir un nouvel iPad, mais pourquoi finalement? C'est ça la question. Mais qu'est-ce qui change par rapport. Parce que toute cette puissance, ok, d'accord, mais un iPad, qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? C'est regarder des vidéos sur Netflix, peut-être jouer un peu, bosser, mais pas autant qu'avec un Mac ou un PC. Donc c'est vrai que. Et à chaque fois dans ces présentations, vous avez le musicien et le vidéaste. Mais bon, la Terre entière n'a pas que des musiciens et des vidéastes. C'est ça le problème. Oui. Qu'on puisse gérer 4 flux 8K sur un iPad de dernière génération, ça prouve la puissance de l'appareil. Mais finalement, ça s'adresse à qui
Après, encore une fois, c'est un peu comme les lunettes. Hein, c'est dans le B2B, quoi. C'est le.
Oui.
C'est l'architecte. C'est ces métiers-là. Mais ces métiers-là, ça veut dire transformer une machine. Alors, autant le casque qu'on a sur la tête avant qu'il tombe.
Mais
tu as raison.
Là, on a quand même des appareils un peu plus, enfin, fragiles.
Mais c'est vrai que tu vois, ça me fait penser un peu aux précédentes versions d'iPhone, quoi. Effectivement, c'est mieux. Mais pourquoi mieux et par rapport à quoi? Voilà, si on a un iPad qui a 4-5 ans, finalement, ça change quoi de prendre le nouveau, tu vois?
Mais alors, pas sûr. Moi, j'ai dans mon entourage, moi, je suis pas très iPad, beaucoup plus ordi, hein, classique. Ouais. L'iPad, je peux pas me satisfaire. À chaque fois, je tombe sur des murs, des choses que je peux pas faire. Mais j'ai dans mon entourage proche, des gens qui sont accros à l'iPad et qui attendaient ce nouveau modèle avec impatience parce qu'il n'y en avait plus depuis un certain temps et qui l'utilisent pour le boulot, pour la vie personnelle. Et c'est exactement mon antithèse, en fait. C'est-à-dire qu'ils font...
Oui, mais il attendait parce que ce sont des geeks fans
pas
d'Apple
du tout,
ou
pas
parce
du tout,
qu'il
non,
était plus assez puissant pour les usages au quotidien?
C'était plutôt ça.
D'accord.
Voilà.
Bruno?
Ouais, ben j'ai l'impression, c'est intéressant parce que c'est en vous écoutant que la réflexion m'est venue. J'ai l'impression que quelque part avec cette nouvelle génération d'iPad Pro particulièrement, on est en train de parler aux premiers clients d'Apple, donc tout ce qui est créatif. Et j'ai l'impression que c'est ces gens-là qui vont être rejoints par ça. En ce qui me concerne, moi j'utilise toujours mon mini iPad, mais à tous les jours. Et l'iPad, c'est justement, c'est un peu comme un livre sur une table. Et de temps en temps, quand je regarde les journaux, si je veux regarder une vidéo, je vais regarder là-dessus. Mais le gros du marché des iPad Pro, on s'entend, c'est tout ce qui est créatif au niveau du culturel, musique, design, puis aussi du côté des gens qui vont faire de la musique parce que c'est portable. Moi, je me souviens d'avoir vu dans mes classes, quand j'enseignais encore il n'y a pas longtemps à l'université, des étudiants qui avaient ça. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une console de son, ils avaient une console de montage vidéo sur une petite tablette qu'ils pouvaient glisser dans leur sac et c'était pratique.
Il y avait une petite vidéo, pour dire du bien quand même de cette keynote, il y avait une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, et je vous invite à aller la voir, qui montrait, c'était une allégorie de tout ce qu'on fait rentrer dans un iPad, tout ce qu'ils ont fait rentrer. Donc en fait, c'était... tout était compressé, il y avait un poste de radio, un poste de télé, même des pots de peinture, etc. Et cette vidéo montrait comme ça, et c'était tout ça coincé...
Tous les usages, en fait, qu'on pouvait...
Dans une énorme presse, elle était tout à fait vraie. Elle aurait pu s'appliquer à d'autres appareils, aux smartphones, etc. Et en même temps, moi, cette vidéo, elle m'a un peu ému, si je puis dire, parce que je trouve qu'elle symbolisait aussi la fin d'un monde. Et t'avais tout notre ancien monde qui était là, qui était compressé. Alors, pour sortir un magnifique produit, mais il y avait un petit côté triste, finalement. Qui était assez étonnant. Mais allez la voir, cette vidéo, elle est troublante.
Tu parlais de l'iPad mini, Bruno. Tim Cook a prononcé une seule fois l'iPad mini, c'était à la fin, quand il a dit, il y a le famine des iPads, il n'y a eu aucune nouveauté concernant l'iPad mini, mais malgré tout, il n'est pas oublié, puisque Tim Cook l'a évoqué, donc j'imagine que dans les stores d'Apple, on peut toujours acheter des iPads mini qui, eux, visiblement sont moins stratégiques, ils sont moins mis à jour que, on va dire, les iPads traditionnels.
Non, et puis dernière chose quand même, je pensais que tu allais dire autre chose quand tu disais tout ce qu'on mettait dedans, c'est tout ce qu'on met dedans quand même, plus 3 nanomètres M4, design ARM.
Ah oui, l'excellence technologique d'Apple.
Il y a quand même l'appareil, visiblement, enfin moi on ne l'a pas eu en main, mais on fait confiance à Melinda pour les infos qu'elle a eues, il est beaucoup plus fin, donc c'est quand même...
Ouais, c'est cool.
C'est
plus fin que plein, dans 5 ans, c'est une feuille de papier. Hein.
Ouais.
Écoutez, voilà. Et déjà que l'écran est OLED, et je pense que c'est parce que justement l'écran
l'iPad
est OLED
pliant.
Qu'on gagne encore en millimètres.
On aurait pu avoir l'iPad pliant, c'est la prochaine.
Tiens, dans l'actu, il nous reste 3 minutes. Autre sujet lié à Apple, c'est ces centres en fait, de serveurs dédié à l'intelligence artificielle qu'Apple serait en train de préparer avec leur fameuse puce silicone, parce que c'est vrai qu'on voit que évidemment il y a Nvidia, évidemment il y a Qualcomm, etc., etc. Mais Apple ne veut pas rester sur le bas-côté de la route et visiblement travaillerait aussi à ces fermes d'intelligence artificielle générative. Je ne sais pas si vous avez vu cette actu.
C'est assez évident, moi, je trouve, parce qu'on voit, tu le disais, il y a Nvidia sur le marché des puces pour entraîner notamment les modèles. On a vu aussi Google aller comme le ferait Apple sur ce marché aussi. Pour moi, c'était assez inévitable quand même ce pas. Après, il n'y a eu pas pas beaucoup de précision. Apparemment, il travaillerait main dans la main avec des Taïwanais, évidemment, qui sont très en pointe sur ces sujets. Il n'y a pas de date ou autre chose, mais pour moi, c'est assez évident. Et quand les concurrents comme Google y vont, vous êtes obligés d'y aller aussi.
Google, elle s'était émue. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde se rend compte que l'IA, c'est un peu une combinaison. Il y a la partie algorithme, il y a la partie modèle de langage, si on est dans la partie générative, et puis il y a la partie processeur. Et alors, si on veut le plus puissant, on va prendre le GPU Nvidia, on va prendre des modèles de langage de ChatGPT 5 quand il sortira, et puis on a les algorithmes qu'on va faire tourner. Et puis, selon les besoins, on peut prendre aussi des puces. Et c'est ce que propose Google avec ses TMU. Donc, Apple se doit aussi de proposer, de dire je ne vais pas acheter que du Nvidia, je ne vais pas acheter que
si j'achète. Puis on sait qu'Apple aime bien être le seul, on va dire, auteur de sa recette.
Hein. Et puis ça verrouille. Ils verrouillent aussi les TSMC et tout ça aussi. Il ne faut pas oublier. Ils leur disent on est toujours là, les gars.
Hein. Ils ont des atouts puisque maintenant ils designent eux-mêmes leurs processeurs. Et en même temps, ils suivent le mouvement parce que tous, comme tu le dis, ces acteurs de l'IA aujourd'hui qui ont besoin du hardware, et ils veulent aussi surtout ne pas se retrouver pieds et poings liés avec Nvidia qui est devenu une espèce de.
Donc on a que les prix pouvaient être. Ouais, les prix étaient fixés par Nvidia en plus.
Donc l'idée, c'est vraiment, il faut naviguer à vue, il faut se sortir d'un côté. Globalement, il faut se sortir aussi des fabrications asiatiques. Mm-hmm. Et puis surtout au niveau américain d'Nvidia.
Et puis surtout que les développeurs vont chercher à faire des choses qui sont moins consommatrices. Mm-hmm. Enfin voilà, il va y avoir aussi une optimisation de ce côté-là. On n'aura pas toujours besoin de ces GPU. Ouais,
enfin, les fuites chez Apple, c'est bien, mais ce serait bien aussi qu'ils sortent quelque chose de concret, quoi. Parce que ça fait 2 ans qu'on est sur des fuites, donc à part ça, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Hein.
Bruno,
et Siri qui patauge dans la semoule de plus belle.
Ton point de vue, Bruno, pour terminer.
J'allais dire à Jérôme et à Frédéric d'être patient. C'est évident qu'on va avoir des nouvelles à la prochaine présentation quand ils vont finalement nous présenter les composantes IA à même leur appareil. Alors, probablement qu'ils vont, à ce moment-là, annoncer leur vue et leur intérêt du côté des centres de serveurs de données. Mais pour le moment, c'est de la spéculation. Hein. Et puis, on a quand même carburé pendant 10 ans sur une histoire de voiture autonome. Alors, soyons patients.
Ah oui, c'est vrai que tout ça a été jeté à la poubelle.
Oui, Fred, sinon pas annoncé d'IA générative, c'est peut-être parce qu'ils sont toujours en train de négocier avec OpenAI et Google. Quoi. Donc,
il faut qu'ils se dépêchent, hein, parce que la WWDC, c'est dans un mois, hein, les gars.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et en ce mardi soir, 7 mai 2024, bon week-end à vous toutes et à vous tous, bonnes vacances aussi. Peut-être êtes-vous déjà sur la route dans les embouteillages, peut-être êtes-vous avec BFM Business, merci d'être là. Le débrief de l'ActuTech jusqu'à 21h30 avec Claudia Cohen, journaliste au Figaro, Jérôme Colombin, journaliste créateur du podcast Monde Numérique, Bruno Guglielminetti, journaliste animateur d'un autre podcast que je vous conseille et que je vous recommande, Mon Carnet de l'actualité numérique, et Frédéric Simotel. On va parler maintenant donc de ces gadgets qui intègrent de l'intelligence artificielle. Et justement, encore un échec annoncé pour un gadget qui a été dopé à l'IA. C'est le Rabbit. Vous savez, ce majordome de poche.
On ne sait pas comment les appeler, ces trucs.
À l'intelligence artificielle, c'est ça exactement. Qui avait mis la planète tech en ébullition en début d'année. On s'en souvient, on en parlait beaucoup au CES de Las Vegas. Mais les premiers retours ne sont pas vraiment bons. On va écouter les explications d'Anthony Morel. C'était ce matin dans Good Morning Business. Et puis on revient juste après, puisque Jérôme a pu le prendre en main, ce Rabbit.
Peu de déception. Alors, il y a des choses qui fonctionnent quand même, mais c'est vrai que globalement, la promesse n'est pas vraiment tenue. Ceux qui ont pu le tester, c'est pas encore mon cas, mais les journalistes américains qui sont les early adopters, c'est eux qui reçoivent les premiers modèles en général, disent que ça fonctionne pas très très bien. Par exemple, ceux qui ont essayé de commander un VTC, bon bah la plupart du temps, la voiture elle arrive pas au bon endroit, faut sortir le téléphone de sa poche pour reconfigurer tout ça. Donc en fait, ça tue un peu l'intérêt d'avoir cet objet. Vous avez plein de fonctionnalités, le fait que la batterie aussi se décharge extrêmement rapidement. On peut aussi se dire, pour ceux qui ont testé par exemple la commande de nourriture, parce qu'on peut aussi faire ça, et ben on se rend compte que le petit écran il permet d'afficher que 3 ou 4 options du menu, donc c'est pas génial. Là encore, vaut mieux sortir son smartphone. Et en fait, il y a aussi ce truc qu'on avait un petit peu pressenti, même à l'époque, et je me souviens, j'en avais aussi parlé, c'est on se demande à quoi sert l'appareil à proprement parler. Est-ce que finalement, toute la partie logicielle, on pourrait pas simplement...
Dans un téléphone.
Ah oui, l'intégrer sous forme d'application dans un smartphone. Et d'ailleurs, il y a un internaute qui l'a fait, il a bidouillé un petit peu, il a réussi à récupérer regarder l'intérieur du Rabbit, il l'a intégré dans un smartphone Android et ça fonctionne très très bien. Donc il n'y a pas vraiment besoin de cet appareil. Alors après, ça ne veut pas dire que tout est acheté, il y a des mises à jour logicielles qui vont arriver. Et ce qui fonctionne bien, c'est la reconnaissance visuelle, c'est-à-dire qu'avec la petite caméra embarquée, vous pouvez analyser votre environnement. Par exemple, le plat que vous vous apprêtez à manger, il va vous dire le nombre de calories qu'il y a, ce genre de choses.
Bon, voilà pour ce Rabbit. Écoutez, c'est pas réjouissant, hein, tout ça pour un appareil qui, voilà, vient juste de sortir. J'ai l'impression que le Rabbit va retourner dans son terrier rapidement.
Elle est facile.
Bon, alors, en revanche, nous, on en parle, mais Jérôme, ici présent, je sais pas si Bruno l'a testé. Tu l'as eu en main, Bruno ? Toi, qui es aussi de l'autre côté de l'Atlantique ? Pas encore. On t'entend pas, mais c'est pas grave. Tu sais quoi, même avec les signes, tu es parfait. On va essayer de retrouver le son pour notre ami Bruno, s'il vous plaît. Jérôme, alors, le Rabbit.
Le Rabbit ou les deux en même temps?
Parce que alors, on peut commencer par le Rabbit, et après on reviendra sur les Hi-Pin.
Oui, mais alors, si on rentre dans le détail, effectivement, comme on peut commencer par le Rabbit. Mais ce qui est intéressant, quand même, c'est que ces deux produits, qui sont pas du tout faits par la même société, ils ont un air de famille, ils ont un ADN commun.
Et on les compare souvent.
Et c'est normal, parce qu'en fait, et c'est ça qui est intéressant, ce sont les tout premiers petits appareils créés pour utiliser l'intelligence artificielle générative. C'est des petits assistants connectés à ChatGPT, et l'idée, c'est de pouvoir accéder très facilement à ChatGPT. Alors après, le Rabbit, effectivement, moi je l'ai essayé, il est très joli, donc ça a été créé
comment
par...
Comment tu l'as eu en main, d'ailleurs? Quelqu'un l'a acheté?
Alors, enfin... oui, bah, c'est des... Je vais te raconter ma vie, mais voilà, j'étais chez des membres de ma famille qui sont très, 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 très geeks aux États-Unis et qui l'avaient commandé dès qu'il a été annoncé. Okay.
Donc ils l'ont reçu.
Et donc ils ont reçu les deux, et quelle chance, c'était pile quand j'étais sur place. Oh, donc j'ai fait le déballage, le voyage, truc, le machin.
Incroyable, ça.
C'était un petit peu prévu, mais bon, voilà.
À croire que le monsieur Rabbit s'est dit, il y a Jérôme Colombin qui est arrivé à Miami.
Exactement.
On y va.
Alors le Rabbit, je l'ai eu moins longtemps, je l'ai eu 48 heures.
Ah, pas mal quand même.
Hi-Pin, j'ai utilisé une semaine, ouais. Ouais, ouais. Et alors, bon, moi, j'aime bien. J'ai bien aimé parce que il est vachement joli. Il est assez quali. C'est fait donc par cette société de design qui s'appelle Teenage Engineering, qui est très connue aux États-Unis, qui fait des très 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 beaux produits, plutôt orientés sur le son. Ils font des espèces de baladeurs audio, tables de mixage, mais avec un design de folie. Et quand tu es geek, tu adores ces produits-là. En revanche, c'est pas super ergonomique. Et le coup de la petite molette avec le bouton sur le côté, j'ai essayé de le prendre de tous les côtés. Et ben, c'est pas très 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 pratique. Mais après, le problème qu'ils ont l'un et l'autre, ces deux produits, c'est qu'ils ne marchent pas très bien.
Est-ce que tu as, par exemple, l'exemple qu'on donnait toujours du Rabbit, c'était
il décrit une scène.
Où t'es dans un endroit, tu veux commander un Uber, etc. Enfin, des trucs comme ça. T'as essayé de lancer des scénarios par la voix? Est-ce qu'il comprend le français, tiens, par exemple?
Le Rabbit, je ne crois pas. Le Hi-Pin, c'est sûr qu'il comprend pas le français, il comprend que l'anglais. Et le Rabbit, je crois que non, il comprend que l'anglais également. Ouais. Mais ce qui est assez étonnant, c'est ce système de description d'une scène. Tu appuies, tu lui demandes de décris-moi la scène, et il t'explique. Alors voilà, oui, en effet, là, il y a un bateau, il y a la plage, il y a du soleil. Il y a une personne qui est dans une ambiance décontractée, elle a l'air de se reposer. Enfin, tu vois, ça va loin, la description du truc.
À quoi ça sert? Ça va être bleu.
Hein? Non, oralement. Oralement. Ouais, oralement.
Avec une voix.
Avec une voix de synthèse. Nous,
on l'a vu tourner ce midi sur un iPhone avec GPT, mais c'était pas la voix. Mais tu prends une photo, il te décrit ce qu'il y a.
Oui, bah parce qu'effectivement, ce que font ces appareils, on peut le faire avec un smartphone. Et c'est pour ça que je te disais off quand Anthony disait oui, en fait, on peut, c'est une simple appli sur un. Mais so what si c'est une simple appli sur un smartphone? Où est le problème? C'est un appareil dédié. Ce sont des sous-smartphones. Bien sûr qu'on peut faire la même chose avec un smartphone, et un smartphone fait 10 milliards de choses de plus.
Parce que tu auras toujours ton smartphone dans ta poche.
Ben ça sert à quoi? Là, je reviens plutôt à...
Surtout, le Rabbit n'est pas destiné à remplacer le smartphone, puisqu'il est connecté au smartphone, je crois, non?
Non. Alors, il peut marcher en Wi-Fi, ou bien on peut prendre un abonnement cellulaire en plus.
Ok, ouais. Comme les Hi-Pin.
Les Hi-Pin, l'abonnement cellulaire est obligatoire, okay. Et il est fourni avec. Voilà, ça coûte $24 par mois. Et... Oh. Oui, Claudia.
Moi, je vais faire ma techno-sceptique. L'avantage de la technologie, à mes yeux, c'est de nous permettre de pouvoir faire beaucoup de choses avec le moins d'appareils possible. Et donc, j'ai assez de mal avec ces gadgets, pour ma part, et je pense peut-être beaucoup de gens, ces gadgets qui, en fait, t'encombrent plus qu'autre chose et qui ne présentent pas d'intérêt particulier. En fait, je suis pas sûre qu'il y a un marché, qu'il y a un marché là-dessus. En plus, ça a un prix à chaque fois, ces gadgets. Donc, c'est...
Mais en fait, je pense qu'il y a un marché. Il y a un marché pour les early adopters, ce qu'on dit, les fans de gadgets. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a des gens qui sont prêts à débourser plusieurs centaines de dollars pour avoir le petit gadget. Je pense
qu'à chaque nouveau gadget.
En tout cas, ceux qui ont les moyens de se le faire. Si tu veux, je pense que ça représente quand même un bassin de population au niveau mondial qui est assez important. Mais après. C'est fini. C'est-à-dire que si ton objet ne sert pas à grand-chose et ne révolutionne pas ton quotidien, c'est que les amateurs de gadgets qui vont se l'offrir.
Oui, mais tu peux inventer des choses. Par exemple, le Rabbit, pourquoi ne pas imaginer le customiser, par exemple, pour le donner à un enfant, fournir ça à un enfant pour qu'il puisse communiquer, envoyer des messages, interroger l'intelligence artificielle.
Il
coûte 200 euros, 200 dollars.
Achète-lui une tablette.
200 dollars. Une tablette, on va retomber sur le problème relevé la semaine dernière par le rapport qui a été remis à Emmanuel Macron.
Oui, c'est le temps d'écran.
Les enfants, et tu leur donnes une tablette pour aller à l'école. Et
oui, c'est vrai, Fred, c'est pas bien ce que tu as dit.
Ouais, mais tu peux brider le truc quand même. Enfin, c'est ces tablettes-là, on peut les...
Là, c'est déjà bridé. Moi, je suis pas tout à fait d'accord sur le côté, c'est un appareil de plus, oui. Mais alors, tu vois, le AI Pin, donc, qui se porte accroché aux vêtements, je l'ai utilisé beaucoup plus longtemps. Pendant plusieurs jours, je me suis baladé avec. Alors, c'est amusant parce que même aux États-Unis, ça fait parler parce qu'ils n'ont pas vu. Donc tout le monde me demandait ce que c'était. Et c'est, je me suis surpris de temps en temps, tu vois, pour prendre une photo, tac tac, tu double-cliques, tu prends ta photo tout de suite. T'as pas besoin d'aller chercher ton smartphone, machin, etc. Pareil pour demander quelque chose.
Tu double-tapes sur l'appareil et ça prend la photo.
Oui, je me souviens plus exactement des raccourcis, mais je crois que c'est celui-là.
Les gens, par contre.
Non, parce que t'as une lumière qui s'allume. Tu peux aussi prendre des vidéos, mais c'est limité. C'est des séquences de 30 secondes, mais c'est assez sympa en fisheye quand t'es avec des amis. C'est assez convivial. Et puis, c'est un assistant, c'est ChatGPT. Tu veux lancer ChatGPT sur ton smartphone? Bien sûr que tu peux le faire. Tu vas sortir ton téléphone de ta poche, tu vas aller lancer l'appli, tu vas, etc., etc. Là, c'est immédiat. Ou appelle-moi un Uber. Où est le, je sais pas quoi, où est la pizzeria?
Je veux bien, moi. Ça marche. Appelle-moi un Uber. Est-ce que ça marche?
Alors, c'est là où il y a des petits problèmes.
Alors, attends, avant que tu nous le dises, tiens, j'aimerais avoir le point de vue de Bruno. Ça t'excite, ces petits appareils, Bruno, ou tu es plutôt comme Claudia, bof?
Je vais manger du côté de Claudia. Désolé, Jérôme.
Oula, ça, c'est une amitié qui est en train de se fractionner, là. Attention.
Excusez-moi, les garçons.
Une femme entre Bruno et Jérôme. C'est pas beau.
Non, mais faut garder en tête que, puis je reviens sur ce que tu disais, il y a un marché pour ça. Pensez juste au Vision Pro qui coûtait une fortune et ils ont quand même réussi à vendre ce qu'ils avaient produit en main. Là, ça commence à réduire un peu la production parce qu'il n'y a pas un engouement phénoménal, mais à un coût de 300 quelques dollars américains, ça va se vendre comme des petits pains chauds. Ça, c'est pas le problème. Mais de l'autre côté, et ça, je trouve ça intéressant aussi de le regarder, je suivais l'histoire du AI Pin de Human, et eux, ils ont eu de la difficulté cette semaine parce que lorsque les gens ont commencé à vouloir... Parce que vous savez qu'il y a encore beaucoup de commandes qui n'ont pas été livrées. Mais quand les gens, finalement, suite aux mauvaises critiques face aux produits, quand les gens se sont mis à annuler leurs commandes, les gens de AI Pin ont dit, attendez, on veut savoir pourquoi vous annulez votre commande et après, on va annuler votre commande. Alors, vous auriez dû voir la réaction des gens. Ça n'a pas pris de temps. Il y a eu toute une discussion qui s'est faite sur les réseaux sociaux. Et là, les gens de Human ont réajusté le tir. Mais c'est pas qui veut qui peut lancer et réussir le lancement d'un produit. Donc, il y a eu... tu le disais, au début, au mois de janvier, il y a eu tout un phénomène, un engouement. Mais maintenant que c'est en train de se rendre sur le marché, une fois qu'on a pris notre photo avec deux touches sur le côté, si on a un téléphone dans les mains, dans la poche ou dans un sac, on va rapidement aller de ce côté-là.
Non, t'as ChatGPT au revers de ta veste. Je suis désolé, ça, c'est une révolution.
On a ChatGPT au revers de sa veste. Oui. Je crois que c'est ce qu'on retiendra de ce Tech & Co ce soir. juste un truc, parle-nous de cette projection là.
Alors,
qui a l'air un peu...
Très bonne question.
J'allais dire approximative.
Non, elle n'est pas du tout approximative. Ça, c'est vachement bien.
C'est vrai?
Parce que ce qu'il faut dire, c'est que...
Tout le monde s'est moqué de ce truc-là. Hein. Mais moi, les tests que j'ai vus.
Les Français se sont moqués. Les Américains sont beaucoup plus fans.
Ah oui.
Moi, je l'ai montré à des Américains. C'est moi, un petit Français, qui l'ai montré.
Ah
bah,
tu vois, c'est bien.
Qui a fait le pitch à des Américains, et des jeunes, et ils étaient waouh, ils n'en revenaient pas. Parce que ce système d'affichage laser, évidemment, si c'est pour regarder une photo, ça n'a pas de sens. Mais pour interagir avec l'appareil, pour afficher des petits messages courts, etc., c'est super inventif, ça marche très bien, la définition est très bonne, et puis personne ne fait ça, quoi. C'est un truc complètement nouveau d'afficher quelque chose dans le coin de sa main.
Non, mais est-ce que l'enthousiasme qui est communicatif, à ton avis, c'est parce que c'est un nouveau produit qui défriche des chemins que nous, depuis tant d'années qui suivons la tech, n'avons jamais vu? Ou est-ce que c'est vraiment un produit qui va bouleverser notre quotidien? Parce que je pense que c'est pas la même chose, tu vois.
Oui, mais ça va pas bouleverser notre quotidien. Alors, ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est qu'il marchait pas très bien. Il avait plein de bugs, il chauffe, il a des problèmes de connexion. Puis comme il n'y a pas d'écran, on ne sait pas qu'il a des problèmes de connexion, etc., etc. Il est sorti du four trop tôt.
Je me sens pas bien.
On est bien
ambulance. Vous n'êtes pas connecté. Bonne journée.
C'est pour ça qu'il a été démoli par ce YouTuber là. Marcus Brandley, à juste titre, il ne faut pas l'acheter ce produit, il ne faut pas l'acheter. $700 plus $25 par mois, il ne faut pas l'acheter. Mais c'est bien qu'il l'a inventé. Et pourquoi ils ont inventé ça aussi? Parce qu'il faut savoir qu'il y a une espèce de compétition, enfin on le sait, il y a une compétition autour de l'intelligence artificielle. Chacun veut avancer ses pions, et bien ça, c'est des pure players, des nouveaux entrants qui essayent de trouver aussi une nouvelle niche pour utiliser et pour nous fournir des applications d'intelligence artificielle.
Ou tout simplement se faire connaître. Et puis revendre leurs brevets ou avoir un catalogue de brevets.
Mais le truc est vachement bien fini, il est très, très élégant, très joli. Il suffit d'aller sur le site web, de voir les tutos qui ont été faits. Ça n'a pas été fait à la va-vite. Ils ne sont pas allés au bout, ils prennent les utilisateurs pour des bêta-testeurs.
Hein, le couple d'entrepreneurs, d'ingénieurs, ils sortent de chez Apple. Hein, quand
de chez Apple et du design. Le problème, c'est qu'ils ont sans doute un peu trop soigné le design et ils n'ont pas assez investi sur les ingénieurs réseau pour.
Après, ça peut être des usages. Moi je pense à des infirmiers dans les hôpitaux, tu vois.
Ouais, mais bien sûr, des choses comme ça.
Je pense que c'est ça. Et par contre, pour le Rabbit, moi je vois plus un système qui pourrait
s'adapter. Quand tu vois les finances des hôpitaux, 700 balles le IP pour chaque personnel soignant,
ça va être chaud. Les hôpitaux américains vont bien.
Et le Rabbit, je ne sais pas si c'est la partie logicielle qu'il faut utiliser pour, dans une voiture, avoir accès de façon plus simple, par exemple, ce genre de choses. Mais je trouve qu'on a eu tellement des. Et c'est la pas mini télé, la mini radio, la mini machin, et bon, ça je sais, c'est connecté, c'est.
Mais c'est voilà, pas inintéressant.
Quand on voit. Quand, après, on va dire, ah, ce serait bien si tout ça était dans. Qu'est-ce qu'on cherche
dedans?
On n'achète pas un téléphone, un iPod, un appareil photo, un machin et tout ça. Non, je veux tout dans le même, et je pense qu'aujourd'hui, on est tellement tous dans le même que.
Mais ta watch, tu en es bien content, et tu fais beaucoup de sport. Fred, est-ce que tu emportes ton smartphone quand tu vas courir?
De moins en moins. Enfin, non. Je cours avec une watch Apple avec une autre marque.
Et pourtant, elle ne fait pas aussi bien qu'un smartphone. Mais dans certaines circonstances, c'est un produit qui a moins de fonctionnalités, mais qui remplit exactement la fonction que tu attends à un certain moment. Je pense que c'est ça qu'il faut voir aussi.
Bon, espérons que ces produits arrivent à traverser l'Atlantique, parce que bon, voilà, il faut ou aller aux États-Unis ou je sais pas moi connaître peut-être les fondateurs.
C'est bientôt mon anniversaire, je préfère l'iPad.
Mais c'est vrai que c'est étonnant qu'en Europe on voit pas quand même de petites initiatives comme ça, de produits sortir ou de projets en test.
Le hardware, c'est très compliqué déjà, et je pense qu'en Europe, c'est encore plus compliqué. On voit, fabriquer un appareil. Poser la question à notre ami Stan Larocque, qui fait son masque de VR qu'on aime beaucoup, qui vient ici, qui se bat comme un beau diable pour faire vivre son masque, parce que
il est positionné B2B.
Dommage parce que du coup c'est les Américains qui testent le marché pour voir ce que les gens aiment aussi pour sortir après derrière le bon produit. Il n'y a pas de chance en fait de tester pour des Européens les produits.
Et puis tu vois, je demandais à Jérôme justement hors micro quel était l'aspect du Rabbit, parce que c'est vrai quand on voit le Rabbit comme ça on a l'impression
ça fait un peu Fisher Price,
ça fait un peu le jeu Fisher Price ou le jeu qu'on a chez McDo.
Fisher Price, attendez,
ou le jeu qu'on a chez McDo, tu vois, quand tu vois comme ça un espèce de gros plastique,
c'est pour
ça que quand tu l'as dans la main, tu vois quand même qu'il y a un certain design. Et le risque en Europe, quand on fait ce genre de choses, c'est qu'on n'a pas l'argent pour faire un truc aussi fini, aussi.
On a Stark.
On a pour le design, mais pour la faire
de super,
derrière.
De super trucs. Ouais.
Bah, il est cher, Stark aussi. Hein.
Ah, bah écoute, bah, voilà, il fait un effort.
Bah oui, pour aider l'Europe. Philippe,
il fait un effort pour voilà, la souveraineté et le patriotisme européen.
Non, mais pourquoi, pas, pourquoi pas équiper des chambres d'hôtel avec ça, tu vois, avec ouais, les trois applications pas. Où les gens se promènent pour commander.
Il y a plein d'applications de niche, je suis sûr. Mais pas demain, mais après-demain.
On a encore un peu le temps, alors. Bruno, on a terminé là-dessus. On enchaîne peut-être sur... comme tu veux, tu me dis. Bruno, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, ben, en ce qui concerne le souhait de Fred, il faut penser que dans les hôtels, il y a déjà des assistants personnels dans les hôtels haut de gamme où on peut avoir des conversations puis avoir ce genre d'outils-là. Mais tous les services dont Jérôme parlait et cet accès à ChatGPT, moi, je l'attends, mais dans des montures. Lunettes. Oui, oui, oui. Et ça, je sais qu'il y a des entreprises qui sont en train de préparer des produits qui vont être lancés dans les prochains mois. Alors, à ce moment-là, je pense que là, ça vaudra la peine d'investir. Mais pour le moment, je pense que c'est d'avoir un bidule de plus dans la poche. J'ai plus de place, moi.
Les Ray-Ban Meta vont être mises à jour, là, la seconde version.
Super intéressant.
Ouais, c'est pas mal.
Vous allez pouvoir interagir avec la voix, discuter avec vos lunettes.
Enfin, tout le monde ne porte pas de lunettes, hein.
Non, c'est clair.
Mais tu les mets dans des solaires. Tu les mets dans des solaires.
Ouais, mais au mois de novembre à Paris, t'es solaire.
Oui, bon, tu les mets l'été.
Et voilà.
C'est pas idéal, hein.
Plus tu vieillis, plus tu.
Non, mais c'est plus pratique déjà que le truc à
Déjà, au mois de juillet à Paris, des fois, c'est compliqué. Alors, imagine au mois de novembre. On change de sujet. On reste dans l'IA, les amis, pour évoquer cette interview exclusive que vous avez commise tous les deux, à la fois Bruno et Jérôme. Il s'agit de Yoshua Bengio. Alors, vous le connaissez peut-être pas. Moi, je ne le connaissais pas, sincèrement, avant de le découvrir via votre podcast. C'est l'un des papes de l'IA. Une personnalité qui fait partie des 100 personnalités du magazine Time. Voilà, on parle beaucoup de Yann Lequin, de Luc Julia, etc. C'est un gars de ce niveau-là. Ah, hein,
complètement.
On est d'accord.
Voilà. Oui, absolument. C'est le co-religionnaire de Yann Lequin et de Geoffrey Hinton. Ils ont eu tous les trois ensemble le prix Turing, donc le prix Nobel de l'informatique en 2018.
Et alors, vous l'avez interviewé.
Vous l'avez interviewé en visio, ça a été long, mais c'est une collaboration entre podcasteurs, en effet, et on a réussi à obtenir cette interview. Il nous a accordé, 30 minutes. Alors, c'est un monsieur qui parle hein, dans les médias, il n'est pas ultra rare, mais il sélectionne quand même.
D'accord.
Il ne parle pas non plus à tout le monde. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le positionnement et la vision et le travail de Yoshua Bengio, parce que vous savez qu'en matière d'intelligence artificielle, il y a aujourd'hui les confiants et les inquiets. Les confiants et les joyeux, c'est Yann Lequin qui dit « Mais tout va bien les amis, l'IA ça va être que du bonheur pour les 50 ans qui viennent. » Et Yoshua Bengio qui dit « On... »
Attention, on va droit dans le mur.
À la catastrophe. Et en tout cas, la science n'est pas capable de dire aujourd'hui s'il n'y a pas des dangers avec les IA du futur. On ne parle pas de ChatGPT d'aujourd'hui, on parle des IA du futur.
Mais alors Bruno, puisque vous avez mené cette interview conjointement, je crois bien, les dangers c'est quoi? C'est la casse sociale, le danger que la machine prenne le dessus sur l'homme. Quelles sont les frayeurs en fait de ce monsieur?
Ouais. Ben, en grande partie, moi, je dirais que les frayeurs de Yoshua Bengio quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est d'arriver à développer, et il le voit, il en est conscient, une intelligence artificielle qui va être beaucoup plus puissante que ce qu'on est prêt à être capable d'encadrer. Et c'est pour ça que lui, il va de par la monde et il conseille les grands gouvernements, incluant les Nations Unies, pour les aider à se préparer et à encadrer. Et d'ailleurs, il évoque dans l'entrevue la constitution qui est avancée, la IA Constitution, par les gens de Anthropic, qui sont les créateurs de Claude 3, et qui veulent arriver à vraiment encadrer, mais de façon formelle, la création, le développement des nouvelles intelligences artificielles qui risquent d'être encore du domaine du super puissant. Et donc, parce que c'est là où là, j'ai craint. Il a peur de ce que les gens pourront faire avec ce type d'outil qui sera probablement même plus intelligent que certaines personnes qui habitent sur cette planète. Et qu'est-ce qui va arriver avec ça? Alors, si on ne prévoit pas un encadrement avant que ça arrive, on risque d'avoir des fâcheux ennuis. Alors, c'est pour ça que lui travaille beaucoup dans ce sens-là, à conscientiser, mais aussi dans ses travaux de recherche avec sa bande d'étudiants qui sont tous des post-docs un petit peu à travers la planète pour arriver à créer quelque chose qui va permettre de s'assurer là, qu'on encadre bien le développement de l'IA.
Alors, rappelons hein, cette interview, vous pouvez la retrouver dans mon numérique et dans mon carnet de l'actualité numérique, hein, déjà en ligne.
Oui, voilà. Tout à fait.
J'ai pas encore écouté, mais ce que j'ai pu lire sur lui, il fait un peu peur. Je trouve qu'il est, il fait partie des gens qui.
Des
anxiogènes, hein, parce qu'il veut. Bon, il y a, comme beaucoup, de toute façon, une structure pour de surveillance, ça, il en faudra. Mais je trouve qu'il va un peu loin, moi.
Ce
que j'ai pu lire, j'ai pas encore entendu.
Il avait co-signé le fameux moratoire, la fameuse demande de moratoire. Mmh.
Moi, je le trouve assez. Évidemment, il y a les discours alarmistes sur des nouvelles versions d'IA qui pourraient être de plus en plus dangereuses. Mais par contre, sur le discours qu'il a eu, alors pour être très honnête, je n'ai pas écouté chez vous, mais effectivement, il avait donné d'autres interviews aussi. Le discours qu'il a par rapport au monde du travail, je le trouve assez réaliste, parce qu'aujourd'hui, on parle du remplacement de certains travailleurs, de l'automatisation des tâches dans les bureaux, comme on a connu il y a quelques années ces remplacements dans les usines. Et c'est vrai que je pense que le jour où le coût d'embauche d'un humain devient supérieur en fait au coût d'embauche de la machine de ces IA, là la question se posera vraiment, et je trouve pas ça ubuesque d'alarmer là-dessus dès maintenant, parce qu'en fait ce sera dans les prochaines années assez proche. Donc ce discours de la crise sociale, je trouve qu'il est assez réel et surtout assez finalement court-termiste, alors que les autres inquiétudes, je trouve, autour de l'IA, qui est des mauvaises intentions de l'IA utilisées à mauvais escient. Bon, ça, je trouve que c'est un peu plus loin de nous. Alors que sur la crise sociale potentielle que ça pourrait déclencher, je trouve ça assez réaliste, et je trouve ça assez rafraîchissant aussi d'entendre ces discours communiqués dans les médias, dans des interviews comme ça aussi.
Ce qui est intéressant, c'est que tous ces spécialistes ne sont pas forcément d'accord. C'est ça aussi qui est très intéressant, je trouve.
Les deux choses qui me font peur, c'est les deepfakes, tout ça, parce que je trouve que là, on a
des informations.
Et c'est justement cette confiance qu'on peut avoir. Aujourd'hui, avec François, on a rencontré un spécialiste de l'IA, et c'est ce qu'on disait ce midi. On disait, c'est à partir du moment où on va laisser un peu trop confiance à l'IA, parce qu'on va dire, finalement, elle se débrouille maintenant sans moi. Il n'y aura plus l'intervention de l'humain. Et là, moi, c'est ça qui me fait peur. C'est qu'un jour, on dise, tiens, ton programme, il bug un peu. Écoute, j'ai un peu laissé développer le truc, comme il s'est bien débrouillé. Je ne sais pas pourquoi. C'est ça qui me fait peur.
Et ça, c'est l'apéritif, perdre la contrôle. Les amis.
Oui, c'est l'apéritif. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Alors, ce mardi soir, en ce 7 mai 2024, nous débriefons l'actu tech dans Tech & Co, la quotidienne, jusqu'à 21h30, avec Claudia Cohen, Jérôme Colombin, Frédéric Simotel et Bruno Guguet-Minetti, qui est avec nous en visio. Et Sylvain Trinel nous a rejoint. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir.
Journaliste à la rédaction de Tech & Co, et après des mois de rumeurs, enfin...
Ça y est,
Sylvain. Nintendo a dit quelque chose sur sa prochaine console.
Oui, parce que vous parliez de produits gadgets qui ne fonctionnent pas. Moi, je vais vous parler d'une console qui fonctionne vraiment.
Ah oui.
Parce que c'est bien une banale publication sur les réseaux sociaux, notamment X, que le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a annoncé très officiellement que la firme japonaise travaillait sur la successeur de la Switch. Ça y est, sa console hybride, lancée il y a maintenant 7 ans déjà. Il a ainsi promis qu'une annonce en grande pompe interviendrait d'ici la fin du mois de mars 2025, probablement par le biais d'un événement dédié, comme il l'avait fait avec la Switch d'ailleurs, dévoilé en octobre 2016, puis une sortie révélée en janvier 2017, avant lancement en mars 2017.
Alors, est-ce que Nintendo a donné des détails sur cette nouvelle console ?
Alors, évidemment, conforme à sa culture du secret, Nintendo n'en a pas dit davantage, mais bon, vous connaissez l'industrie de la tech.
Bien sûr, Sylvain, vous avez une imagination débordante en plus. Imaginez-nous cette nouvelle Switch.
Je peux très bien l'imaginer. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tout un article sur Tech & Co là-dessus. Nvidia, a priori, sera bien de nouveau partenaire sur cette prochaine console, qui conserverait son modèle hybride, à la fois console de salon mais aussi console portable, et surtout elle bénéficierait d'une rétrocompatibilité totale à la fois des jeux et des accessoires, quand même plutôt généreux de leur part. Un boost de puissance serait aussi au rendez-vous, avec notamment la gestion du DLSS de Nvidia et des écrans 4K. D'ici là, pour faire patienter un peu les joueurs, Nintendo, il invite toute la presse à un événement en juin exclusivement dédié à la Switch. C'est déjà ça, non ? Je pense.
Oui, c'est ça. Mais il ne parlera pas de la Switch 2.
Non, pas encore.
Voilà.
Il va encore falloir être patient.
Voilà. Merci beaucoup. C'était Sylvain Trinet de la rédaction de Tech & Co. Il était temps que Nintendo sorte une nouvelle console quand même, parce que la Switch, et Sylvain nous l'a dit, elle est sortie en 2017. Alors, vous vous rendez compte, là, on frétille pour un tweet qui annonce que le patron de Nintendo va annoncer quelque chose sur la sortie d'une console dans un an.
Moi, j'adore ce monde de la tech.
Incroyable,
quoi. Fait de teasing.
Parce que dans un an, il va peut-être dire c'est dans un an qu'elle va sortir la console. C'est ça qui est fort.
C'est comme Google et les cookies tiers qui dit on arrête. En fait, non. C'est l'année prochaine, c'est la même chose.
Bon, est-ce que vous êtes, je sais pas, moi, fan de jeux vidéo? Alors, je sais que Fred est fan de jeux vidéo. Non, tu joues pas la Switch, toi, Fred, hein? Non, pas du tout.
Si, je joue un peu avec toi.
C'est vrai? Avec ton fils, oui, ouais. Ça va. Claudia, non?
Franchement, non. Mais il faut rappeler quand même, c'est la troisième console la plus vendue du monde ever. C'est-à-dire vraiment... donc c'est une belle réussite derrière la Nintendo DS et la PlayStation, PlayStation 2, qui est la plus vendue. Donc c'est une très très belle réussite. Mais ces derniers mois, quand même, il y avait un affaissement des ventes. Donc la nouveauté sera la bienvenue.
Jérôme ?
Ça, on attend dans les jeux, hein.
Pardon ?
Faut que les jeux arrivent avec.
Ah oui.
Ouais.
Bon, ça, on peut faire confiance à Nintendo. Je pense qu'ils vont faire ce qu'il faut.
Moi, j'ai arrêté de jouer depuis que je me fais laminer par les enfants. j'ai tiré un trait.
Ouais. Moi, je joue à Tetris pour tout vous dire sur la Switch. Donc, pour vous dire à quel point je suis oldies. Bruno, la Switch.
J'ai eu mon époque Switch, mais non, je suis plus ordinateur. Donc.
Bon, ben voilà. Ben écoutez, on n'ira pas plus loin avec cette annonce. On verra bien ce que ça donne. Autre actu, cette fois-ci qui vous a plu, c'est pour ça qu'on va en parler, c'est en fait les livres audio. Vous savez que il y a une vraie tendance du livre audio. Mmh. C'est intéressant parce que Amazon a été quelques années avait racheté Audible. Je ne sais pas si on dit Audible ou Audible d'ailleurs. Je ne sais pas trop.
Ils ont en français.
Audible. Voilà. Qui est spécialisé là-dedans, c'est-à-dire que vous achetiez, je ne sais pas moi par exemple, le dernier Stephen King, au lieu de l'acheter en version écrite, vous achetez la version audio qui est lue par un comédien. Et je vous invite.
C'est super d'ailleurs.
C'est super.
Et qui est de plus en plus lu par les auteurs aussi. Des ouvrages, c'est un niveau de personnalisation.
Et puis c'est des comédiens.
C'est intéressant. Donc,
c'est pas très bien parce que ça concurrence le podcast, mais bon.
Ça concurrence le podcast, puisque en fait c'est vrai qu'un livre audio, c'est un immense podcast raconté, en fait, issu d'un livre. Et quand vous écoutez, un roman passionnant comme ça, c'est très agréable. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y a une vraie montée en puissance du livre audio. Amazon, mais aussi Spotify, hein, puisque c'est l'un de leurs axes de croissance.
Exactement.
Je crois que Deezer aussi. Voilà, ça commence vraiment à se réveiller. Et donc Audible explique que finalement n'importe qui est auteur d'un livre pourra avoir un livre audio. Tout simplement, sans se payer un comédien.
C'était pas le cas jusqu'à présent.
Voilà.
Effectivement, c'est ça qui est intéressant. C'est que moi, pour avoir écrit quelques bouquins, j'aurais été très flatté que mes bouquins soient déclinés en version audio, mais ça n'a pas été le cas. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Parce qu'effectivement, les éditeurs font des choix, etc. Et là, ça se
fait. Et puis, ça va avoir un coût.
Un comédien
qui va lire un bouquin de 400 pages, ça prend du temps, quoi.
Mais là, avec l'intelligence artificielle, effectivement, on va faire des heureux et des malheureux. Les heureux, c'est les auteurs en question, et puis les malheureux, c'est les narrateurs, les comédiens, les voix qui étaient utilisées pour faire ça. Et aujourd'hui, les gens qui vivent de leur voix, je peux te dire qu'ils sont très, très, très préoccupés quand même. Hein. Moi, je me suis fait insulter sur X.
Mais il faut être très clair. On a eu ici Anne Bouvreau avec Fipaillon, là, qui ont sorti leur rapport interministériel sur l'IA générative. Quand on lui a demandé quel métier allait disparaître, elle a tout de suite dit, les doubleurs de voix. Elle
me dit, non, parce qu'il y a aussi une possibilité de monétiser sa voix. Tu es une voix aujourd'hui, tu peux aller par exemple sur Eleven Labs, tu vends ta voix et ensuite tu vas toucher des royalties. Sauf que tu ne vas pas toucher grand-chose et qu'il y en a un au passage qui va lui se sucrer, c'est la plateforme en question. Et hop, un intermédiaire américain de plus dans le jeu.
Ouais, et puis il y a combien de comédiens vont numériser leur voix, tu vois ?
Il n'y en a pas énormément. Tu vois, c'est du travail, tu as 3 heures d'enregistrement, machin, etc. Mais c'est une fois pour toutes. Et après, tu es rentier. Hein.
Donc, en gros, là, pour qu'on résume, n'importe quel bouquin, tu appuies sur un bouton, paf, tu as la version audio avec une voix. Donc, une voix qui a été produite par l'intelligence artificielle.
Bruno a des précisions à
Bruno, on t'écoute.
Ouais, ben, dans les faits, je pense aux auteurs, aux pauvres auteurs comme Jérôme Colombin qui ont créé des livres. Dans le cas de la solution qui est présentée par Amazon, c'est que c'est un nouvel outil qui leur est offert. Et donc, c'est l'auteur lui-même qui doit décider de publier une version audio de son livre. Mais ça vaut vraiment la peine parce que l'outil et le service, il est offert gratuitement. Alors que normalement, si vous vouliez faire la même chose, ben, fallait compter quelque chose comme entre 500 et 1000 $ pour payer ou le studio et la voix. Et puis, ça pouvait prendre quelque chose comme 3 ou 4 semaines pour passer à travers toute la lecture, reprendre les hésitations comme ça. Tandis que là, avec le nouveau système d'Amazon, normalement, selon les témoignages que j'ai lus ici et là, on parle d'une 50aine de minutes plutôt que 4 semaines. Alors quand même, et surtout que le service est gratuit. Mais tout ça, et tu le disais, François, tout à l'heure, c'est la nouvelle initiative d'Amazon. Pourquoi? Ben pour essayer d'aller combattre Spotify sur le terrain, parce que Audible est disponible aux États-Unis et de par le monde depuis longtemps. Mais là, Spotify, en voulant rentrer dans le marché du livre audio, ben évidemment, Amazon ne va pas se laisser jouer sur son terrain.
C'est intéressant, parce que après on se dit, waouh, aujourd'hui, alors moi, j'ai testé avec un roman de Stephen King, le tout dernier, et c'est vrai que la voix du narrateur était exceptionnelle. Enfin voilà,
ça compte.
C'est une vraie voix. Hein. C'est des gens qui ont du talent, etc.
Et après, c'est une vraie voix. Hein.
C'est une vraie voix. C'était pas une voix d'intelligence artificielle. Mais après, quand c'est des romans comme ça, on va dire des best-sellers, je pense qu'il y aura toujours des comédiens qui diront ça. Parce que un best-seller qui se vend à des centaines de milliers d'exemplaires, là, ça sera rentable. Mais demain, t'achètes, je sais pas moi, le guide du web développeur pour les nuls. Peut-être qu'une IA suffira dans ce cas précis, parce que ça sera plus un tuto.
Les IA font des voix formidables. Moi, dans mon numérique, depuis quelques semaines, je fais travailler une IA qui fait de l'actu. Et je peux te dire que
comme ça, 400 pages au long cours, où tu ressens parfois, tu vois, le questionnement, le frisson, le sous-entendu dans la voix, des choses comme ça, par le ton. Je pense que ça, il n'y a qu'un humain encore qui peut apporter, cette subtilité.
Ce qui se passe sur les best-sellers surtout, c'est qu'ils sont écrits par des auteurs que les gens connaissent. Et en fait, avec l'IA, il y avait cette tendance quand même ces dernières années.
Un grand auteur ne voudra pas que son roman soit saccagé par l'IA.
Non, mais surtout, il va la lire lui. C'est ce que je voulais dire. En fait, il y avait cette tendance ces dernières années où c'était l'auteur lui-même de best-seller qui lisait son ouvrage. Ouais. Et on a vu des exemples avec des anciens présidents de la République,
Nicolas Sarkozy,
en France notamment. Exactement. Ça avait cartonné, ça chez Hachette. Et là, on pourra discuter avec des maisons d'édition. Ce qui se passe, c'est que l'auteur qui est connu pourra prêter sa voix. Donc, on aura l'ADN de sa voix grâce à l'IA. Il pourra lire tous les romans qu'il écrit. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a le côté où on est présent sur toute la chaîne et il y a un aspect assez personnel aussi et intime auprès du lecteur qui, à mon sens, est vraiment
intéressant. Je suis d'accord avec toi, Claudia. Mais est-ce qu'on aura la subtilité du ressenti du lecteur? C'est ça le truc. Si tu numérises la voix de Guillaume Musso, enfin je dis n'importe quoi, ou d'un autre grand auteur.
Mais c'est ce qui va se passer, hein. C'est...
Ouais, mais oui. Est-ce que tu retrouveras dans cette voix numérisée, eh bien toutes les sensations et le ressenti de la lecture, c'est ça.
C'est l'effet qui sera recherché là-dessus. Et ça, je pense qu'on verra ça arriver l'année prochaine. Hein. Franchement, je sais que les maisons d'édition sont en train de discuter là-dessus. Ça va être assez imminent.
Mais je pense que ce qui serait intéressant aussi, c'est qu'on puisse choisir la voix du narrateur et qu'on ne soit pas prisonnier d'une seule voix, finalement.
C'est que toi-même,
tu puisses alors écouter sa voix, c'est pas toujours évident, mais
sauf si t'as un ego surdimensionné.
Oui, non, puis
je vais m'écouter lire.
Oui. Non, mais alors nous, on travaille dans un métier où parfois on doit se réécouter pour voir si on n'a pas,
croyez-moi, c'est pas agréable ça.
Dans les formations. Moi je trouve ça intéressant. C'est là on pourra choisir sa voix. C'est ça. Ouais. Pourquoi pas sa propre voix? Pourquoi pas?
Ou alors toujours la même voix pour les livres, tu vois? T'as une espèce de voix que tu apprécies et qui va te raconter à chaque fois toutes les histoires, quelle que soit
dans cette logique, moi je trouve qu'il y a un marché aussi pour les constructeurs automobiles, pour les voitures, parce qu'il y a quand même toujours cette utilisation des voitures. Mmh. Et je trouve qu'il y a une sous-exploitation de l'audio dans ces voitures. C'est-à-dire que là, on a l'option radio, l'option podcast, etc. Mais demain, je pense qu'on va voir certains constructeurs. Alors à l'époque, pour la petite anecdote, il y a quelques années avant la pandémie, il y avait par exemple le magazine Challenge qui était sur le point de signer un partenariat avec Renault pour pouvoir en fait avoir ces contenus audio de la presse de Challenge dans les voitures. Et je pense qu'il va y avoir des partenariats de ce type entre des géants de la tech qui ont ces livres audio avec les constructeurs automobiles.
Pour Radio France travaille là-dessus de manière plus ou moins secrète depuis très longtemps, mais il n'y a pas encore grand-chose qui a débouché. Ouais.
Non, mais après, il va falloir passer toute l'histoire des droits d'auteur, enfin, tu vois, tout ça. Mais pour le coup, je pense comme Jérôme, et je pense que ça, on dit demain, mais ça va arriver très très vite, que des IA seront capables de donner dans la voix l'émotion, etc.
Quand tu vois le résultat, le niveau même d'empathie auquel tu arrives aujourd'hui, Bruno faisait des doublages sur son podcast il y a 6 mois, on en avait discuté, je disais ouais c'est pas mal et tout, mais c'était pas parfait. Et aujourd'hui, on a déjà franchi un cap. En 6 mois, 1 an, ça a progressé d'une manière incroyable.
Non, et puis moi je me souviens, moi ce qui m'avait marqué, Bruno, c'était ton interview de Steve Jobs.
Ouais, tout à fait.
C'était impressionnant, et ça. Et alors que Steve Jobs nous a quitté il y a quoi? Il y a 12 ans, 13 ans maintenant. Et tu avais réalisé cette interview grâce à un logiciel d'IA qui reproduisait fidèlement la voix de Steve.
Ouais, mais il y a énormément de potentiel. Moi, j'ai l'impression que le thème ce soir, c'est attendre, soyons patients. Parce que, encore là, on est à... C'est quoi? C'est quelqu'un de chez OpenAI qui disait aujourd'hui, dans 6 mois, on va rire de ce que ChatGPT pouvait faire aujourd'hui. Mais c'est vrai, dans un an, Jérôme parlait de il y a 6 mois, ce qu'on pouvait faire. Dans un an, on va rire. Et l'émotion, c'est une donnée de plus à laquelle la machine... Et d'ailleurs, si vous utilisez un outil comme Eleven Lab, ben maintenant, si on va dans les préférences avancées, on peut jouer avec l'émotion. Et d'autres outils, maintenant, nous l'offre. On a des variantes pour une même voix de synthèse. On peut la faire avec le sourire, avec l'émotion, le trémolo. Donc, à un moment donné, il y a ces outils qui sont là, mais il y a aussi les gens qui utilisent les outils, un peu comme un sculpteur qui vous donnez un rabot à n'importe qui, il va faire un désastre avec un bout de bois, et vous le donnez à un sculpteur, et il va faire un chef-d'œuvre. Alors, c'est un peu ça avec les outils de voix de synthèse.
Et dans le milieu littéraire, tu disais Frédéric, pour les métiers menacés, il y a au-delà des doubleurs, il y a les traducteurs qui sont absolument en train d'être terrassés. Et en fait, pour eux, en tout cas en France, c'est absolument abominable, parce qu'en fait, les traducteurs ont un statut d'auteur en France, donc les revenus qu'ils vont toucher sur les ventes d'un livre suivent en conséquence. Et là, en fait, moi, je sais qu'il y a beaucoup de maisons qui utilisent l'IA pour faire une première grosse traduction, mm-hmm. et ensuite ils confient cette traduction à des traducteurs à qui on demande d'avoir un statut d'auto-entrepreneur. Donc là-dessus, vraiment, c'est toute une industrie qui est en train d'être décimée. Et malheureusement, pour les traducteurs comme pour les doubleurs, je vois pas forcément comment on peut, quels autres usages positifs il peut y avoir pour eux de l'IA. En tout cas, je vois pas ça maintenant.
Après, c'est vrai que traduire un roman, c'est complexe, parce qu'il y a plein de choses qui sont intraduisibles, les jeux de mots, il y a plein de choses. Et c'est vrai que là encore, ça va être intéressant de voir si demain l'intelligence artificielle peut concurrencer en fait l'agilité intellectuelle humaine pour traduire, si tu veux, un roman anglais en français, tout en gardant le vrai sens. En fait,
je trouve que tu le vois déjà dans la qualité. Alors, les Netflix, tout ça, c'est de qualité, mais ils en produisent tellement qu'il y a beaucoup de films aujourd'hui où tu sens que, alors, quand c'est en anglais ou en espagnol, lorsque ça concerne, tu peux voir les nuances dans d'autres langues, j'imagine, mais je trouve la traduction, on voit que dans certaines séries, elle est quand même moins bonne. Quand tu vois le
c'est traduit par l'IA, toutes ces séries, tu crois, chez Netflix? Ils n'ont pas encore des traducteurs.
Ils ont du speech to text. En fait, ils ont des choses qu'ils disent. Ils font du speech to text et ensuite ils essaient de réadapter parce qu'ensuite il faut coller aux lèvres
la synchronisation labiale.
Synchronisée. Mais il y a un speech. Il y a chez beaucoup c'est du speech to text. Hein. On écoute le film, ça fait tous les dialogues, puis après tout est arrangé et ensuite on essaie de retrouver les bonnes expressions.
Mais sur Amazon aussi, l'anecdote c'est qu'il y avait eu ces derniers mois plein de bouquins qui étaient écrits avec de l'intelligence artificielle et qui étaient publiés sur Kindle Direct Publishing. Et d'ailleurs, du coup, Amazon était complètement dépassé par ce phénomène et a dit, donc aujourd'hui, vous n'avez le droit de publier que 3 livres par jour, 3 nouveaux livres par jour via leur service. Ce qui est quand même assez fou. Et en fait, il y a plein de gens qui ont acheté ces livres parce que pour des manuels pratiques, des trucs de cuisine, ou même pour des petites histoires sympas pour enfants, en fait, il y a des choses qui se lisent très bien. Donc ça
même
aussi,
toi, tu racontes ton histoire, tu as des histoires à raconter, des anecdotes, des machins, puis c'est le il te met tout ça en bouquin, c'est assez sympa pour laisser un souvenir, pas pour la postérité, enfin pour la postérité familiale, on va dire.
Un livre écrit par l'IA, traduit par l'IA. Écoutez, voilà, la boucle est bouclée.
La boucle est bouclée.
Lu par l'IA.
Voilà. Et comprise
par l'humain encore.
Acheté par une IA demain.
Acheté par une IA.
C'est l'étape d'après.
Waouh. Bruno.
On sort de la boucle.
T'as vu, on part loin à Paris, quand même. On est loin, là.
Non, ben, je suis ému par votre déclaration, par la boucle de l'IA.
Je t'avoue que nous, on est émus, et on n'en a pas encore parlé, par ta veste rouge qui est superbe, là, qui a fait péter tous les écrans de BFM Business.
Honneur au rabbit.
Oui, mais la veste, elle était pour souligner la performance du M4.
Ah, c'est pour ça, d'accord.
C'est un coup d'éclat.
C'est la première veste à la technologie OLED, c'est ça.
Si tu viens avec ça, Vivatech, dans 15 jours, Bruno, tu vas avoir un succès incroyable.
Et puis, crois-moi, nous, on tournera le dos quand on te verra comme ça.
Non, je viens pas que les douaniers français ne seront pas rentrés sur la tête.
Oui, pour tous ceux qui sont avec nous, simplement à la radio, c'est vrai que aujourd'hui Bruno a mis une très belle veste rouge, un peu presque de matador.
De toréador.
De toréador, c'est ça.
Ah ouais. Ben, c'est aux couleurs de mon carnet.
Eh bien voilà. il nous reste 8 minutes, on va parler d'intelligence artificielle. Tiens, pourquoi pas un petit coup d'Elon Musk, ça fait un moment quand même. Avec évidemment X, anciennement Twitter, puisque vous savez que Elon Musk a lancé Grok il y a quelques mois de cela, qui nous a fait tous doucement rire. Hein. Grok avec un Q, attention. Hein. Avec un K. Avec un K, parce que Q, c'est autre chose. Et donc, voilà, il essaie de voir un peu ce qu'il peut faire avec cette intelligence artificielle générative. Il investit, je crois, pas mal d'argent dedans. Hein. Ça se compte en milliards. Et là, il aimerait lancer un nouveau service pour commenter des informations, d'après ce que j'ai compris.
Pour faire des synthèses d'actualité. Pour faire des synthèses d'actualité générées par ordinateur, mais en se basant sur les contenus de X. Et c'est là où... Alors, c'est super habile sur le principe, c'est vachement malin. Sauf qu'on voit tout de suite les dangers. C'est qu'il va prendre des contenus publiés par des médias, par des professionnels de l'information, par, je sais pas, des responsables politiques. Et puis aussi... il va ramasser aussi tous les trolls, tous les méchants, tous les désinformateurs professionnels. Et que va faire l'IA avec tout ça?
On connaît quand même la version de Elon Musk pour les médias dits traditionnels. Il s'en est jamais caché. Mais pour moi, ce qu'il veut faire, excusez-moi, mais ça ressemble à un sondage sur un échantillon défaillant qui est Twitter, avec tous les fous et les professionnels et le petit monde qu'on connaît. Et c'est ce que fait. Par contre, ça sera très très utile, ces données, pour essayer d'avoir un pouls aussi de la société sur certains sujets, ce que proposent déjà des cabinets de conseil aussi qui analysent les réseaux.
C'est pour les abonnés payants aussi qui pourront avoir un résumé.
Dans un premier temps.
J'étais pas là pendant 4 heures, dis-moi ce qui s'est passé sur Twitter.
Mais c'est super malin. Enfin, moi, je trouve ça génial. On sait pas à quoi ça va ressembler, mais sur le principe, c'est génial.
Et en même temps... Plutôt qu'avoir les mots-clés qui s'affichent, les 5 mots-clés...
Oui, mais ce sera du texte. Ce sera des mini-articles, d'après les exemples qui ont été montrés. C'est quand même vachement intéressant, parce que, et en plus, X, malgré tous ses défauts, est un média, est un canal d'information à part entière. C'est sans doute le média le plus rapide aujourd'hui.
Tout à fait.
Ça va plus vite que la télé, plus vite
sans
que la radio.
Sans doute le plus décrié, mais le plus consulté. C'est
exactement
ça le paradoxe.
Et donc, si ils arrivent à relever ce défi de la désinformation, le résultat serait quand même.
Ils n'ont pas forcément ça à cœur, c'est ça le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas
cette volonté. Il a levé le doigt, Bruno.
Ouais. Ouais, mais j'avoue que moi, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça intéressant, un peu comme Jérôme, parce que je trouvais ça habile, ça permettrait de faire une synthèse de la discussion populaire. Qui joue avec les faits, là, quand même. Mais sachant que ça va passer par la moulinette croque, que j'ai testé à plusieurs occasions parce que j'ai accès, j'avoue que je trouvais que, et encore aujourd'hui, je trouve que croque est quand même bien centré dans son information. Il n'est pas trop à gauche, pas trop à droite, et fait attention à ce qu'il dit. Alors, si c'est cet instrument-là qui est utilisé pour arriver à faire un résumé des discussions et de la teneur des discussions sur X, je trouve qu'effectivement, ça va être intéressant pour faire du rattrapage et pour faire le point sur certains sujets qui sont discutés, auxquels on ne veut pas se taper la lecture de toutes les publications qui ont été faites, mais simplement d'avoir un sommaire du qui dit quoi.
C'est intéressant parce que, alors, on évoque cette fonctionnalité qui n'est pas encore mise en avant, hein, mm-hmm. ça devrait arriver, mais je ne sais pas si vous avez suivi. Moi, ce week-end, j'étais sur Twitter et je regardais.
Maintenant, plus Twitter.
X. Je ne sais pas si vous avez vu toutes les vidéos, vous pouvez les projeter sur votre télé maintenant.
Ah oui, c'est ça aussi, il veut faire de la télé.
Et ça, c'est très intéressant, ouais. Parce qu'au-delà du fait de pouvoir diffuser une vidéo via une Chromecast depuis X vers ta télé, il y a des applis X qui arrivent sur les télés Samsung, LG, sur toutes les plateformes de télévision en streaming. Ça va être intéressant de voir ce qu'il a derrière la tête.
Et on le voit déjà, il y a eu quand même des transfuges de la télévision américaine notamment, oui. Qui ont quitté leurs médias respectifs pour différentes raisons. Et qui ont lancé leur émission sur Twitter dans des formats
notamment
beaucoup plus longs.
Notamment un présentateur de Fox TV.
Oui,
de
je
Fox
ne sais
News,
plus comment
hein,
il s'appelle.
Crois,
exactement.
Qui était assez polémique, on va dire.
Qui était assez polémique. Et en fait, bon, par contre, il y a cette volonté d'avoir des formats plus longs qui, du coup, se prêtent à une vision sur la télévision. Donc, un nouveau concurrent de plus à la télévision sur le poste.
Mais c'est intéressant de voir comment ça va se tourner, ce truc-là. Est-ce que Elon Musk va inciter les créateurs de contenu au lieu de tweeter, à faire des vidéos en live? Je ne sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui, vous pouvez faire des lives de plusieurs heures sur Twitter. Oui. Elon Musk communique beaucoup là-dessus.
Il fait beaucoup de lives.
On a l'impression qu'il...
beaucoup d'événements audio.
Qu'il prépare, en fait, une nouvelle ère de l'audio et de la vidéo sur X.
C'est quand même ce qui est incroyable, hein, quand on débattait pendant des mois du rachat de Twitter à l'époque, par Elon Musk, on disait, il lui manquait un média pour, et là il est en train de faire, alors il tâtonne, hein, on voit il y a des choses, il ouvre, il ferme, faut s'abonner, faut plus s'abonner,
on a surtout dit il a rien compris, il va se planter,
voilà, hein,
c'est surtout ça qu'on a dit.
Et en fait, alors je mets de côté le côté libertaire, tout ça, les opinions qu'il veut faire passer, tout ça, mais mine de rien, il est en train de tester plein de choses qu'on n'avait pas vu sur Twitter, que les autres ne testent pas plus, hein, ils sont dans leur couloir de nage, ils avancent avec quelques idées, tout ça. Lui, il est en train de tester plein de choses et puis ça marche, quoi.
Enfin, oui, les notes de la communauté, ça c'est pas mal quand même pour
Bruno.
Et il y a deux mois, il y a Elon Musk qui l'avait annoncé, hein, qui était en train de travailler sur une version de X pour la télé. D'ailleurs, moi, je me suis amusé à écouter mon podcast, mon carnet, sur mon téléviseur, parce que je pouvais tout simplement l'envoyer comme ça. Mais donc, tout ce qui est retransmission en direct sur X, maintenant, on peut le regarder tout simplement à la télé, plus besoin de tenir notre appareil. C'est très pratique.
Ouais, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, on pourra peut-être regarder un match de foot diffusé sur X via sa télé. Peut-être qu'on pourra regarder des films. Peut-être que demain,
on a un nouveau média.
Une nouvelle ouverture en fait vers la vidéo et peut-être des chaînes de télé aussi. C'est assez intéressant. Hein. Mais couplé à l'intelligence artificielle.
C'est là où je te disais quand je suis en train d'essayer de vendre Spotify en disant l'acteur européen. Je trouve que Spotify devrait aller un peu fouiner dans tous ces recoins là de la vidéo. Et tout ça pour essayer d'être. On cherche un réseau social européen. C'est là où je pense qu'ils devraient aller un peu plus loin. Ils ont les communautés, ils devraient.
Ouais, mais X a le contenu parce que.
Bah non, mais c'est ça qui en manque.
Eh oui, c'est ça.
Après, le
c'est
contenu.
De l'UGC, du contenu.
Mais qu'est-ce qui sera vraiment différent aussi? Après, faut se dire que des vidéos qu'on voit
sur YouTube,
est-ce que ce sera un énième canal qui finalement propose la même chose et qui ressemble de plus en plus aussi à des contenus télé, hein? Parce qu'il faut dire ce qu'on voit sur YouTube, ce qu'on voit sur Twitch, qui était très novateur au début sur le type de contenu qui était présentés, la façon dont les programmes sont faits et les vidéos sont faites ressemble de plus en plus à des programmes traditionnels des chaînes de TV, je trouve. Donc il faudra se différencier.
Moi j'étais sidéré là, aux États-Unis la semaine dernière, et c'est de voir notamment dans le sport, etc., le nombre de chaînes YouTube qui font du stream de sport non-stop avec un niveau de qualité, mais c'est France Télévisions quoi, hein, c'est formidable, des matchs de basket et autres, et c'est à G continu comme ça, t'aimes le basket sur je sais pas quoi.
Moi, et alors, rien, et parfois c'est des trucs de niche, vraiment.
C'est vraiment des trucs de niche. Ouais. Putain, des max de pub au milieu.
Moi j'ai vu une chaîne Dodgeball, tu sais, les balles aux prisonniers. Je te jure, mais c'est des compétitions là-bas.
Ouais, ouais, ouais.
Et
il y a des chaînes YouTube.
Ils sont comme des fous autour de ça.
Et bien voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci Bruno depuis le Québec. D'être passé en visio, par la visio, nous voir ce soir avec évidemment ton carnet d'actualité numérique. Merci beaucoup à Jérôme Colombin, que vous retrouvez aussi quasiment chaque jour avec du nouveau contenu sur ton podcast Monde Numérique. Merci à Claudia Cohen, journaliste au Figaro, qui s'essaie aussi à la télé, en quelque sorte, avec des entretiens prestigieux que tu co-animes régulièrement. Et merci à Fred Simotel.